Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monnaie Libre. Eh bien aujourd'hui, je reçois David. Salut David.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
Alors David, tu es webmaster du site immobilier d'Angers, donc que tu as créé en quelle année ?
En août 2008.
En août 2008. Alors c'est un site que moi je consulte tout le temps, tous les mois, régulièrement. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes sur ce site, notamment alors les graphes de Frigit, on y reviendra plus tard, qui donnent un prix relatif à l'immobilier, c'est-à-dire relatif au revenu moyen. Alors on pourra en discuter parce que le revenu moyen, c'est pas forcément le revenu de tout le monde, bien sûr. Et puis il y a aussi des informations sur comment ça évolue en province, dans les régions, à Paris, de façon différenciée. Donc c'est très très intéressant. Et surtout, ce site, il n'est pas là pour vendre, quoi. Je veux dire, il ne vend pas de choses en particulier, même s'il peut y avoir des publicités, etc. Mais on sent bien que l'analyse, elle est justement très décalée par rapport à ce qu'on peut trouver par ailleurs. Alors, David, est-ce que tu peux déjà peut-être nous expliquer comment tu en es arrivé à vouloir créer ce site et l'alimenter ainsi? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu as fait ça?
Moi, tout simplement, après être rentré sur le marché du travail, 2 ou 3 ans après, j'ai commencé à m'intéresser à éventuellement un premier achat immobilier. Donc j'ai commencé à étudier le marché, à rencontrer quelques agences immobilières pour regarder ce qu'on pouvait avoir avec notre budget. Et de là, je me suis rendu compte que on pouvait pas avoir grand-chose. Il faut dire aussi que j'habite dans une région où l'immobilier est assez cher. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions, à me demander si c'était réellement intéressant pour nous d'acheter un petit appartement, parce qu'on pouvait pas se payer grand-chose de plus. Et à faire quelques calculs assez simples pour comparer l'achat et la location, pour savoir comment on pouvait faire les autres personnes autour de nous, qui avaient pas forcément les mêmes salaires, qui avaient pas forcément les mêmes patrimoines. Et de là... Je me suis rendu compte que la vision qu'on nous donnait à travers les médias ou les professionnels était quand même assez biaisée par rapport au fait qu'ils poussaient au maximum à l'achat.
Ouais, c'est-à-dire que tu as repéré déjà à cette époque, intuitivement, et peut-être encore plus clair aujourd'hui, que finalement, tous ces discours sont des discours de vendeurs ou d'acheteurs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes font le discours qui les arrange, en fait.
De la part des professionnels, on va dire, c'est leur boulot, quoi. Ils défendent leur commerce, donc plus il y a de transactions, plus il y a de personnes qui achètent, et plus ils font monter le chiffre d'affaires de leur entreprise. Donc ce discours, je m'y attendais un petit peu, on va dire. Ce qui m'a un peu plus perturbé, c'est de voir que la plupart des grands médias, on va dire classiques, quoi, je vais pas citer de nom, mais reprenaient aussi des commentaires et des comparaisons qui revenaient pas à la même chose que moi je pouvais calculer, par exemple. Avant de me regarder un peu plus près, je me suis dit, finalement, quand on sait que les promoteurs, les agents immobiliers, le crédit immobilier, tout ça, c'est ce qui génère une des plus grosses parts des régies publicitaires des médias. On se rend compte que finalement, ils sont pas totalement indépendants non plus. Et aujourd'hui, avec le recul, et depuis 5 ans, plus de 5 ans que j'étudie ça, je me rends compte que souvent, dans ces grands médias, on diffuse des communiqués de presse tout préparés par des professionnels, sans forcément d'analyse et sans forcément de recul ou de comparaison les uns par rapport aux autres. Et donc moi, c'est ce qui m'a beaucoup gêné dans mon approche sur le marché. Et donc quand j'ai commencé à étudier des choses de manière à part, quoi, on va dire à part ma propre réflexion, mes propres recherches, je me suis dit, ça pourrait servir à des amis, à de la famille, et du coup j'ai commencé à partager ça sur un site que j'ai créé, donc en appelant ça Immobilier d'Angers, parce que le nom était pour faire résonance au fait que l'immobilier c'est pas sans risque.
Oui,
et puis donc, ce qui ne transparaissait pas du tout dans le discours classique qu'on pouvait entendre, que ce soit par le bouche à oreille ou par les médias. Et donc le site est né comme ça, et petit à petit j'ai continué à creuser le sujet, à m'y intéresser de plus en plus et à partager au fur et à mesure ces analyses.
D'accord. Oui, quand tu dis ça passe en risque, je reviens dessus, effectivement, c'est passe en risque et puis s'engage souvent sur des périodes assez longues. C'est un des achats les plus importants qu'on peut faire dans son existence, disons, pour un ménage moyen, quoi. Je veux dire, c'est évident, quand on est engagé sur 15 ou 20 ans, ça, ça,
Ah bah ça a des conséquences sur toute une vie financière et puis une vie personnelle aussi parce que ça c'est un choix qu'on fait à un moment donné de sa vie qui va nous bloquer ou nous limiter
On peut
par la
toujours.
suite pour des raisons pour des choix
Ouais,
professionnels
c'est vrai.
pour plein de choses derrière.
C'est vrai, c'est. Ben oui, parce que oui, mais oui, si après, oui,
Et
c'est. Pour bouger, c'est plus
accessoirement à
dur.
côté ça engage aussi sur plusieurs dizaines, à centaines de milliers d'euros et donc sur plusieurs années de travail derrière. Donc ça reste pas un choix anodin et donc c'est pour ça que bah moi j'aime bien prendre connaissance de tous les risques avant de m'engager sur un projet aussi important et c'est ce que j'invite à faire mes lecteurs sur Immobilier Danger en les incitant à se poser des questions et de vraiment approfondir leur projet pour savoir quels sont les risques, quels sont les par rapport à ce que ça va leur apporter et que chacun puisse décider par lui-même si ça vaut le coup ou pas pour lui d'acheter ou de rester en location ou d'investir.
Donc, ce qui fait de toi maintenant un expert en immobilier, on peut le dire, hein. Parce que, à force.
Expert, ouais, je sais, c'est toujours difficile de se qualifier d'expert, mais on va dire que voilà, j'ai étudié le sujet depuis, ça va faire bientôt 6 ans que j'étudie le sujet de manière approfondie et que je me questionne réellement, que je compare différents discours. À droite, à gauche, et donc
Mais,
on va dire une accumulation d'expérience plutôt
oui.
qu'un expert.
Et tout en étant un conseil non intéressé au résultat, donc du coup peut-être un peu plus neutre que certains conseils qui le sont, comme tu le disais, les médias qui sont eh bien, des porteurs de publicité pour ce marché, et puis les économistes qui eux-mêmes travaillent pour des banques la plupart du temps, qui eux-mêmes fournissent ce marché, puisque là, alors là, par contre, on est bien dans le sujet de monnaie libre, puisqu'on sait très bien maintenant, on a très très bien compris, hein, que tous ces crédits alimentent arbitrairement l'économique, la vie économique.
Ah ben là, oui, c'est sûr que les banquiers, comme tous les professionnels qui sont concernés par le marché de l'immobilier, ont pleinement profité de la spéculation qu'il y a eu ces 10-15 dernières années.
Ouais. Alors, à noter que concernant les banquiers, ils sont encore plus forts, puisqu'ils sont intéressés à tous les marchés, hein, par définition. Puisqu'ils tiennent, ils tiennent la valeur d'échange universel. Donc, du coup, tous les marchés les intéressent, toutes les bulles les intéressent. Donc, alors, on va maintenant approfondir, hein, le contenu de ton site qu'il faut absolument connaître, hein, immobilier-danger.com, là, qui est vraiment complet, vraiment très fourni. Alors, moi, il y avait évidemment deux aspects que je voulais voir avec toi. C'est l'aspect, ce que j'appelle moi, spatial, et l'aspect temporel. Alors, tout d'abord, à l'analyse spatiale, c'est-à-dire, en fait, ici, bon, on va se limiter à la France, parce que on va pas parler Europe ni monde, parce que ça, déjà pas mal.
Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, oui, c'est sûr.
Ouais. Mais on va essayer de se limiter d'abord à la France. Même on peut garder en arrière-plan, hein, mais sûr, il y a eu les subprimes aux États-Unis, etc. Mais bon, la pratique du crédit aux États-Unis n'est pas tout à fait la même qu'en France, donc il vaut mieux se concentrer sur un marché qui utilise la monnaie d'une certaine façon. Et ici en France, donc l'analyse spatiale, ça serait quoi? Ben déjà, c'est de voir comment évolue, enfin comment sont les prix à l'instant T, c'est-à-dire maintenant. Alors on est en 2013, entre ben finalement des zones comme Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux ou n'importe où, les régions en France. Alors que toi, tu as analysé tout ça, tu connais ces écarts, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et puis aussi peut-être à rajouter la part que peut jouer, la part qui peut jouer dans le prix des impôts fonciers, bien sûr, parce qu'on voit bien que si. Bien sûr, s'il y a un impôt sur le foncier, bon, ben, l'immobilier est imposé dessus, ça doit avoir un impact. Et puis aussi la taxe d'habitation, éventuellement, enfin les diverses taxes qui peuvent être liées à un logement, qui forcément aussi vont influer sur son prix. Alors, comment tu analyses ce terrain-là que tu as travaillé? Comment ça se passe en France, là, en 2013? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Bah déjà, en France, on a une grosse difficulté pour avoir une connaissance claire des prix de l'immobilier dans une ville donnée. Parce que bah, on a très peu d'indicateurs fiables sur les transactions réelles, à part les chiffres de notaire qui sont publiés avec beaucoup de décalage. On n'a aucun indicateur qui nous permet de connaître réellement les prix, sauf à payer pour aller voir au cadastre quelques biens en particulier. Donc déjà là c'est l'opacité sur les prix, elle fausse beaucoup, elle fausse beaucoup la perception qu'on peut en avoir. On a notamment beaucoup d'indicateurs ou de baromètres qui peuvent parler de d'évolution des prix en se fixant uniquement sur des prix de présentation sur les sites d'annonces immobilières. Donc, ce qu'il faut bien faire la distinction entre les prix qui sont affichés dans les annonces et les prix auxquels se vendent réellement les biens et auxquels les contrats sont signés chez les notaires. Donc ça déjà c'est une distinction qui est bien d'avoir en tête. Donc à savoir que voilà, sur les prix qui sont communiqués par les notaires, c'est les chiffres qui sont réellement sur les actes de vente, alors que la plupart des baromètres nous disent en faisant les gros titres, les prix ont augmenté de 2% ce mois-ci. Et non, c'est pas les prix qui ont augmenté, c'est les désirs des vendeurs qui ont augmenté de 2% par rapport au mois précédent, la période de comparaison. Donc ça déjà c'est une première distinction à faire, à savoir que voilà pour trouver des chiffres fiables, c'est assez difficile. Donc principalement il faudrait se concentrer sur les chiffres des notaires. Le problème qu'on a, c'est que les prix peuvent évoluer assez rapidement et que les chiffres des notaires sont donnés avec beaucoup de décalage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 22 octobre 2013, les notaires ont publié au début du mois les chiffres sur le deuxième trimestre 2013, donc c'est-à-dire sur les transactions qui ont lieu entre avril, sur les actes de vente qui ont été signés entre avril et juin 2013. C'est-à-dire sur les compromis de vente qui ont été signés en moyenne à peu près 3 mois avant, c'est-à-dire au premier trimestre 2013. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chiffres qu'on nous communique au mois d'octobre sont des chiffres de ce qui s'est passé réellement, les contrats qui ont été signés entre un acheteur et un vendeur au premier trimestre. Donc on a plus de 6 mois de décalage avec les chiffres.
Il faut le savoir déjà, donc c'est important. Ça veut dire que...
Donc voilà, donc déjà ça fausse beaucoup quand on a des périodes de forte hausse ou de forte baisse. On peut pas savoir réellement ce qu'il en est aujourd'hui au moment où on va signer pour acheter un bien ou pour en vendre un.
À moins de prolonger la tendance en sachant qu'il y a 6 mois de décalage.
Voilà, il y a 6 mois de décalage et sachant que il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en jeu pour faire évoluer les prix. Souvent c'est les prix médians ou les moyennes qui sont données. Donc c'est pareil, là il y a encore des biais statistiques qui peuvent être importants. Et souvent, les chiffres qui sont donnés, par exemple, là, sur le deuxième trimestre, ils sont comparés sur 12 mois glissants. Donc, le décalage, il peut être encore plus important. En moyenne, il peut être de plus d'une année d'écart.
D'accord.
Et donc voilà, ça, c'est une notion que toutes les personnes autour de moi qui ne s'intéressent pas du tout à l'immobilier et qui entendent parler, si on leur donne un prix à la télé... Sans leur expliquer le pourquoi du comment, ce que ça représente exactement. Et ils n'ont aucune notion de ces différences, de ces décalages dans le temps, de à quoi ça correspond réellement. Donc, déjà, c'est, pour faire une analyse, du coup, c'est assez délicat.
Alors, il y a quand même des chiffres qui sont donnés par les... par le travail de Frigit ou les notaires. Enfin, ces chiffres, on peut quand même les traiter, même si la fiabilité est pas top, on peut quand même les travailler.
Après, à partir de ces chiffres, on peut en suivre les tendances, on peut voir un peu les évolutions, on peut voir les retournements de cycle.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il en est dans l'espace? Alors, est-ce que c'est plus cher à Paris qu'à Marseille? Est-ce qu'à Marseille, c'est plus cher qu'à Toulouse? Enfin, c'est quoi est-ce que tu as une idée un peu de la répartition des prix, en gros, dans les grandes régions pour citer, je sais pas, une région du centre, une région des quatre points cardinaux, avec 5 régions, nous faire un petit balayage de la France, quoi. Comment ça se passe?
Eh ben, on va reprendre un peu. Je vais regarder. J'ai publié récemment un article là-dessus avec les prix des notaires qui ont été donnés au deuxième trimestre.
Ouais.
Donc après, les notaires tous les trimestres, ils communiquent des prix médians pour le mètre carré d'un appartement ou pour une maison en moyenne.
Ouais.
Donc ça permet déjà d'avoir une bonne indication, on va dire, sachant que voilà, entre un studio et un grand appartement familial, il va y avoir de grosses différences de prix au mètre carré, des choses comme ça, mais ça permet quand même d'avoir des tendances et de voir comment ça évolue dans sa ville. Donc, ce qui est déjà beaucoup plus précis qu'une moyenne nationale.
Oui.
Donc Paris, on sait tous que c'est là que la spéculation est la plus forte, ou que l'offre est la plus faible par rapport à la demande. Donc c'est là où les prix sont le plus élevés. Donc actuellement, les notaires donnent le prix du mètre carré pour un appartement à 8 200 euros à Paris.
D'accord.
Donc ça, c'était les chiffres qui ont été publiés pour le deuxième trimestre 2013 par les notaires au début du mois.
D'accord.
Après, si on se base un peu sur les grandes villes, on va voir que tout de suite, ça descend beaucoup plus bas, même dans des grandes villes comme Lyon ou Marseille ou Lille, par exemple. Donc à Lyon, où le prix est l'un des plus élevés au mètre carré, ça descend tout de suite à 3 330 € en moyenne.
Ah oui, quand même, hein, c'est deux fois moins, c'est moins que deux
Donc,
fois moins.
Oui, c'est deux fois et demi le prix divisé par rapport à Paris, quoi.
Ouais.
Donc voilà, et après ça descend vite en dessous des 3 000 € en moyenne dans la plupart des grandes villes françaises.
Ouais.
Et voilà, on va dire tout ce qui est bassin méditerranéen, ça va forcément être un peu plus cher que le centre où il y a moins d'activité. Donc je sais pas, je vais prendre par exemple à Nice, qui est une ville assez chère aussi, on est à 3 510 € du mètre carré. Sur Marseille, par contre, on descend à 2 320 € du mètre carré.
Ah bah, vu qu'il y a des mitraillettes à chaque coin de rue, c'est sûr que
ça fait baisser le prix. C'est sûr que ça n'aide pas pour l'image de Marseille, mais à savoir l'impact sur les prix de l'immobilier, c'est difficile.
Ouais.
Donc voilà, donc déjà on voit que dans un même pays, avec les mêmes paramètres, on va dire à peu près pour les conditions de financement, pour beaucoup de choses, on a déjà des fortes différences d'une ville à une autre, même sur une des villes, on va dire, similaires en termes de taille d'agglomération.
D'accord. Et alors, et sur la côte ouest, est-ce que...
Bah, sur la côte ouest, on va être par exemple aux alentours de 2 570 € à Nantes ou 2 350 à Rennes. Bordeaux, ça va être 2 820 €.
D'accord. Donc est-ce que là on peut dire par rapport à ces prix que ces prix reflètent aussi le... On y reviendra un peu tout à l'heure en détail, mais ça reflète aussi le revenu moyen des habitants de ces régions?
Bah, en partie, parce que justement ce qu'on peut voir avec les graphiques de Jacques Frigide, c'est que les revenus sont pas forcément, les prix de l'immobilier sont pas forcément reliés aux revenus. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui rentrent en jeu, c'est les revenus que obtiennent les gens chaque mois de leur travail et le patrimoine qu'ils ont accumulé et qu'ils possèdent et qu'ils peuvent utiliser pour payer des biens.
Oui,
donc, savoir que celui qui va revendre un appartement à Paris à 8 000 € du mètre carré, même si c'est un petit appartement de 50 mètres carrés, enfin, qui pour moi en province me paraît comme un petit appartement de 50 mètres carrés, bah, demain il va pouvoir s'acheter un appartement de 120 mètres carrés à Lyon pour la même somme.
Oui.
Et ça sans tenir compte de ses revenus. Donc déjà là on a des... Alors, les grosses différences qu'ils font, c'est qu'étant donné que les prix ont flambé en 10 ou 15 ans, ils ont fait entre une fois et demie et plus de deux fois le prix en moins de 10 ans, entre 98 et 2008. Bah, y a tous ceux qui avaient acheté, on va dire, quand l'immobilier était pas cher avant, qui se retrouvent avec un patrimoine qui est beaucoup plus élevé aujourd'hui et qui aujourd'hui peuvent continuer à acheter malgré les prix élevés. Et puis ceux qui ne possédaient pas de biens immobiliers ou qui les ont achetés après 2005 et qui aujourd'hui peuvent plus suivre au niveau des prix. Mais oui, après, globalement, ça reprend quand même par rapport aux revenus. On sait qu'en Île-de-France, c'est là où les revenus sont les plus élevés en moyenne, et donc forcément, ça tire les prix vers le haut. Et donc même en dehors de Paris intramuros, que ce soit la petite couronne ou la grande couronne, on retrouve des prix beaucoup plus élevés que dans des régions de province où les salaires sont beaucoup plus faibles.
D'accord. Donc les différences spatiales, hein, entre les villes, les régions, etc., reflètent un peu ce qu'on intuitivement on ressent, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus cher à Paris qu'ailleurs, et puis après, bon, ben, y a une grande différence avec les grandes villes de province. Lyon restant la plus chère aujourd'hui, et puis après il y a combat, il y a match entre, entre Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse ou Marseille. avec des prix finalement dans des zones un peu similaires. Et puis alors donc sur cette analyse spatiale, est-ce que tu as fait un lien avec est-ce que tu as remarqué que si l'impôt foncier ou la taxe d'habitation était plus ou moins élevé à Paris qu'ailleurs par exemple?
Paris, c'est assez spécifique sur la taxe foncière, parce qu'il faut savoir elle est très très basse par rapport au reste de la France. La taxe foncière à Paris, c'est là où ça augmente, le plus augmenté ces dernières années, mais ça partait tellement bas qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher d'être propriétaire à Paris d'un appartement de 100 mètres carrés
Ouais.
que dans beaucoup d'autres grandes villes de France.
D'accord, mais si ça coûte moins cher le foncier, forcément, ça joue sur les prix à la hausse. On est prêt à payer plus cher un appartement qui coûtera moins cher en impôts.
Pour cette taxe, oui, mais après la taxe foncière par rapport on va dire au prix du mètre carré, elle reste tellement minime que on va dire à Paris, je pense que le montant de la taxe foncière il importe peu dans l'évolution des prix. Après, c'est sûr que étant donné que elle est beaucoup moins chère qu'ailleurs, c'est aussi un attrait supplémentaire.
Oui, c'est-à-dire c'est un avantage supplémentaire qui est donné sur Paris par rapport aux autres coins de la France, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette dichotomie de l'impôt foncier. Elle est due à quoi constitutionnellement, à ton avis? Est-ce que le
Alors, je
droit
ne sais pas, j'ai
permet.
jamais creusé l'origine exacte
Ouais.
de ces différences. Je pense que c'est un avantage qui a été donné au départ, à un moment donné, pour attirer de plus en plus de monde sur Paris.
Il faut dire un avantage ou un privilège?
Je pense qu'on peut dire un privilège, parce que
Ouais, je croyais que les privilèges avaient été abolis depuis 1789, moi. Je sais pas trop comment on peut justifier ça, mais bon, effectivement, ça existe. Et la taxe d'habitation, c'est pareil, elle est moins chère à Paris qu'ailleurs?
Sur la taxe d'habitation, je sais plus, je pense que c'est à peu près du. Il y a beaucoup moins de différence avec le reste des autres villes. Je vais reprendre les derniers chiffres que j'avais. Ouais, si, sur Paris, elle est quasiment divisée par deux par rapport aux autres villes. Là, j'ai repris un article de capital.fr qui disait que le montant d'une taxe d'habitation pour un ménage un peu modèle, qui était comparé sur les différentes villes. À Paris, on a 462 euros, alors qu'à côté, on a Marseille à 1216 euros et Lyon à 902 euros. Et la plupart des autres villes, on va dire, c'est entre 800 et 1200 euros.
Donc c'est quand même étonnant de constater que à Paris le foncier est deux fois moindre et la taxe d'habitation est deux fois moindre et les prix sont deux fois plus élevés. Donc ça veut dire qu'effectivement s'il y a deux fois moins d'impôts, bien forcément les prix sont en corrélation vont être plus élevés. Je crois que ça paraît assez évident. Non?
Oui, je
Oui.
pense pas que ce soit le paramètre le plus important. Je pensais surtout que le fait qu'un.
Mais sur 10 ou 15 ans, quand on réfléchit à un investissement et qu'on fait la somme des impôts qu'on va payer, si on part de deux fois moins, ça finit par faire une économie tout à fait importante.
Ah bah là, sur 10 ans, grosso modo, pour Paris, ça fait sur une taxe d'habitation, une taxe foncière, si vous gagnez 500 euros tous les ans sur chacune des deux, bah ça fait 10 000 euros au bout de 10 ans, quoi.
Bah, c'est déjà ça, quoi. Hein. Ouais. D'accord, donc c'est déjà. Et encore, si on prenait peut-être.
Maintenant, est-ce que ça justifie de payer 2 fois et demi plus cher qu'à Lyon le prix du mètre carré? Je pense pas que sur la durée dans laquelle vous allez rester dans un bien, c'est ce qui justifie le plus les écarts de prix.
Oui, mais il y a aussi, il faut voir que dans les prix, il y a aussi bien sûr tous les investissements. C'est-à-dire celui qui achète pour en retirer un loyer, il va regarder, une fois les impôts déduits, l'intérêt que ça lui rapporte. Donc s'il a mis 100 000 euros par exemple, si c'est il a investi 100 000 euros, s'il touche, je sais pas, on va dire les 2% d'intérêt, 3% d'intérêt au final, tout déduit, ça lui fait 3 000 euros par an. Mais si on lui dit qu'on va lui enlever 500 euros de taxes, ça fait plus que 2005. Donc son intérêt, il est amputé. Et c'est pas une petite somme. Un taux de 3 000 passé à 2005, c'est pas une petite somme. Après, en plus, s'il s'agit d'un immeuble particulièrement disons placé, etc., il peut avoir une taxe ou un foncier encore plus élevé, et donc ça va encore jouer sur sa rentabilité. Donc il faut regarder plutôt la. C'est pas sur le prix de l'appartement en tant que tel que je pense que le calcul se fait, mais pour ceux qui investissent pour le louer ensuite, c'est sur la rentabilité du bien. Donc évidemment, si la rentabilité du bien est très très forte parce que les impôts sont très très faibles, ben le prix de ce bien va être d'autant plus fort. C'est l'intérêt qui fait levier en fait. Finalement, c'est le bénéfice qui fait levier plus que le prix.
Oui, mais là, les écarts, ils sont tellement énormes que ça peut pas être justifié juste par. Je sais pas quelle part pourrait être justifiée par un écart sur l'impôt
Alors,
foncier, mais.
il y a d'autres facteurs, mais ça, c'est un facteur qui joue. C'est un facteur qui se rajoute à d'autres. Évidemment, à Paris, il y a tout un tas
Ah oui,
d'avantages.
bah,
Il
alors à
y a les
Paris, on va dire qu'il y
transports,
a
on
un nombre
est.
important de facteurs
Oui, bien
qui jouent à
sûr.
la hausse et donc
Oui,
qui
oui.
expliquent en partie les écarts.
Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a effectivement, puis on est au centre de la France en termes de transport, hein, pas en termes de place, bien sûr, mais en termes de transport, tous les TGV arrivent à Paris, donc forcément, c'est un endroit, si on veut pouvoir bouger dans toute la France, c'est quand même très très pratique. Il y a énormément de services sur place, voilà, etc. Donc il y a les transports en commun, les cinémas, il y en a partout. Si en province, si on est au cinéma, si on n'a pas de voiture, déjà c'est difficile. Donc bon, bon, après il y a d'autres avantages en province. Moi j'ai habité dans les deux cas, donc il y a plein d'avantages à la province aussi, bien sûr. Enfin la province, je connais pas la province au sens large, mais déjà en Aquitaine, je vais dire, on a la mer, et on a l'océan qu'on n'a pas à Paris, ça c'est un avantage.
C'est sûr, oui.
Alors après bien sûr il y a tous ces aspects qui rentrent en jeu, mais évidemment, ne serait-ce que la taxe foncière et la taxe d'habitation, déjà, ben, ça se surajoute. À toutes ces considérations. Et peut-être qu'en fait, aussi, même au départ, on peut imaginons dans le temps, et on va y venir après notre première pause, puisqu'on va arriver à notre première pause, mais imaginons que dans le temps, entre deux zones, il y en a une qui est une taxe foncière, une taxe d'habitation, deux fois moins que l'autre au début, alors qu'elles sont les deux villes sont dans des situations équivalentes. Bon, ben, au départ, les gens vont plutôt aller investir, faire construire, etc., dans les villes où c'est moins cher. Et ce faisant, ben, il y a plus de monde qui va vivre là, on va créer plus de transports, etc., etc. Et au bout de 40 ans, ça fait une ville qui est deux fois, trois fois plus développée que celle qui, au départ, avait un impôt plus fort. Donc c'est aussi quelque chose qui se cumule dans le temps parce que ben, le premier bénéfice, finalement, initial, se cumule avec les bénéfices, qui se surajoutent et au bout de 40 ans, ça finit par faire beaucoup. Alors la question qui se pose, c'est comment dans un pays qui respecte les droits de l'homme, les citoyens se retrouvent, selon le lieu où ils habitent, à un moment donné, en dichotomie bah, finalement de participation à la charge commune, puisque c'est précisé comme ça dans les droits de l'homme notamment. Vraiment, théoriquement, chaque citoyen doit contribuer de la même façon et en proportion de ses moyens à ses charges. Bon, en pratique, on voit que c'est très très différent de ça.
Ah bah oui, parce qu'il y a plus de 30 000 communes en France et que chaque commune applique son taux d'imposition pour la taxe d'habitation et la taxe foncière.
Ouais.
Et donc un même foyer avec un logement exactement identique, avec la même valeur à un endroit A, à un endroit B, paiera jamais la même taxe d'habitation ou la même taxe foncière.
D'accord. Alors on va faire une première pause, David, et puis après on va justement affiner un peu cette analyse temporelle. Donc ici, première pause sur Monnaie Libre, première pause musicale avec une musique. Tu sais comment sont les musiques sur Monnaie Libre, David?
J'en ai vu quelques-unes, ouais.
Ouais, mais surtout, elles sont sous licence libre. Elles sont libres.
Oui, ça, c'était bon.
Donc, à tout de suite.
À tout de suite.
Une certaine alchimie secrète, une certaine alchimie secrète circule. Librement le temps d'une nuit, librement le temps d'une nuit, sans lune, sans lune.
Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte. braver l'amour reste notre seule lutte.
Voilà, de retour dans Monnaie Libre après cette première pause musicale avec David, le webmaster de Immobilier d'Angers. Alors, on a vu dans la première partie, on a parlé de l'historique de ton site, comment tu es venu à créer ce site. Hein. Toi-même, tu étais à la recherche d'un premier achat immobilier. Tu t'es posé des questions sur ce que ça coûtait vraiment, sur ce que ça allait pouvoir te coûter vraiment. Et finalement, d'ailleurs, est-ce que tu l'as fait cet achat? Non, pas encore.
Non.
Finalement, tu t'as reculé. Donc,
j'avais aucun intérêt à acheter un petit F2 ou un F3, sachant que c'était pas du tout adapté à mes besoins, on va dire à moyen terme, à l'horizon 5-10 ans. Et surtout que ça m'obligeait à me fixer à un endroit précis géographiquement, alors que je débutais ma carrière professionnelle. Enfin, on débutait, puisque je suis en couple, donc on débutait tous les deux notre carrière professionnelle et que ça voulait dire aussi se priver de beaucoup d'opportunités si jamais on se fixait à un endroit donné. Parce qu'il faut savoir que quand on achète et qu'on revend, étant donné le coût qu'a l'acquisition, il faut plusieurs années avant que ça soit rentable par rapport à une location. Ne serait-ce que le temps de payer les frais de notaire et les frais d'agence, etc. Et du coup, il faut être sûr de rester un minimum de temps à cet endroit-là et que le bien convienne pour vivre à la famille, qu'il soit suffisamment grand, etc. Et du coup, non, pour l'instant, je suis toujours locataire et je profite de ma mobilité.
D'accord. En attendant que les prix soient ceux qui te conviendraient.
Voilà, en attendant que je puisse acheter ce qui me conviendra pour 10, 15, 20 ans ou plus, si je suis fixé personnellement et professionnellement.
D'accord. Alors, on revient sur notre analyse. On avait commencé par l'analyse spatiale. On avait parlé un peu des différences entre Paris et les autres villes. On avait parlé Paris-Lyon après, et après peut-être après les autres villes. Pour l'instant, on avait notamment, dans cette première partie, on avait signalé que bon, ben, y avait quand même aussi une différence d'impôts entre les Parisiens et le reste de la France. Les Parisiens payent deux fois moins, que ce soit en foncier ou en taxe d'habitation, pour des raisons dont le Conseil constitutionnel devrait être saisi. Et non, ça tu l'avais pas dit, c'est moi qui le dis. Hein. Et donc maintenant, on va attaquer un deuxième point très important. Il faut pas voir que le spatial, faut pas voir que l'instant T. Comme tu l'as fait, toi, tu as regardé les logements, tu as vu dans l'avenir quoi est-ce que ça allait devoir te coûter. Donc il fallait que tu te fixes 10 ans ou 15 ans. Il fallait tout un tas de conditions pour que tu te lances éventuellement dans l'appropriation de ton logement. Et puis maintenant c'est le temps, comment ça se passe dans le temps, alors y compris on peut c'est toujours pareil, on peut prévoir l'avenir, enfin prévoir, imaginer comment peut être l'avenir en se basant sur le passé. Évidemment l'avenir sera pas le passé, mais il faut essayer de voir ce qui s'est passé pour éviter de répéter des erreurs s'il y en a eu, ou de faire des bons coups quand il y a des bons coups à jouer. Ça c'est vrai c'est vrai dans tous les sujets, hein. Je parle pas d'immobilier en particulier ici, mais donc c'est ce qu'on peut appeler l'analyse temporelle. Donc une analyse n'est pas complète si on fait pas une analyse spatiale d'abord à l'instant T, en 2013 par exemple, qu'est-ce qui se passe, et maintenant qu'est-ce qui s'est passé en France de 1800 à 2013. Je crois que les courbes ou Frigit, ils nous donnent des informations depuis 1800, je crois.
Oui, les premières, elles remontent au début des années 1800, 1840, on va dire, les premières.
Voilà. Alors, on peut regarder cette analyse temporelle, voir comment, finalement, les prix de l'immobilier ont évolué. Alors, dans le temps, alors, et dans l'espace, c'est dans le temps, j'ai envie de dire, parce que si on regarde dans le temps, il faut regarder où aussi. Évidemment, à Paris, à Toulouse, ça va pas tout à fait la même chose, mais bon, on peut regarder globalement pour la France, déjà. Et bon, moi, j'avais pensé une petite idée de, je sais pas si tu connaissais, je savais pas si tu connaissais ou pas cette problématique-là, mais voir si éventuellement, finalement, cet immobilier, qui quand même est lié à une zone souveraine, une nation par exemple, une fédération de nations, enfin une zone, j'appelle souveraine d'un point de vue monétaire, là où la monnaie se crée, cet immobilier est quand même un des points qui permet de savoir dans quelle zone monétaire on est. Je veux dire, quand on est aux USA, bon, on utilise le dollar, et l'immobilier aux USA, ça va s'acheter, se vendre en dollars, et puis en Europe, ça sera plutôt l'euro, bien sûr. Et donc, comment ces prix d'immobilier peuvent aussi être liés éventuellement au cycle de crise économique au sens large, les cycles et les crises économiques étant liées bien sûr aux crises monétaires qui sont à peu près de la même nature. Donc savoir si elle pouvait faire le lien avec les deux, et puis ne serait-ce que déjà analyser les cycles éventuellement de prix de l'immobilier. Alors toi, tu parcours ça depuis 2008, donc ça fait 5 ans, et comment tu, maintenant, est-ce que tu as une vision de ces cycles, et peut-être au final, tu pourrais nous dire ce que tu penses de l'instant 2013, où on en est dans ces cycles, est-ce qu'on est sur un point haut, un point bas, un point de stagnation, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce que tu as appris?
Déjà, on se rend compte que comme tout marché spécifique, c'est très cyclique. Il y a des périodes de hausse qui succèdent à des périodes de baisse, etc. Ce qu'on a tendance à oublier en France, puisque depuis, on va dire, après une grosse baisse des prix, notamment en Paris, en Ile-de-France, entre 91 et 98, on a quasiment connu que des hausses de prix et des très fortes hausses de prix jusqu'en 2008. Donc on va dire que moi, depuis que je m'intéresse au marché immobilier, et même un petit peu avant de me renseigner pour mon achat, j'ai vu et entendu que des discours que l'immobilier, ça pouvait que monter. Donc déjà, c'est une première idée reçue qui est vite à corriger, c'est que quand on regarde dans le temps, il y a des périodes où ça monte, ça peut monter longtemps, ça peut monter très haut, mais il y a aussi des périodes où ça descend, et ça peut aussi descendre très bas et très longtemps. À titre de comparaison, je suis regardé ce qui pouvait se passer dans d'autres pays. Et par exemple, j'ai fait il y a quelques années des comparaisons avec le Japon, où après avoir connu une bulle immobilière jusqu'à la fin des années 80 ou début des années 90, je ne sais plus exactement, les prix baissent depuis plus de 25 ans. Donc chose que vous dites ça à un Français qui ne voit que les prix monter depuis plus de 10 ans et qui entend autour de lui qu'il faut acheter parce que ça va monter et que ça va continuer à monter, qu'il fera une plus-value quoi qu'il arrive. Chose même qu'on entend parfois chez certains professionnels de l'immobilier qui vous garantissent que vous ferez une plus-value à la revente. Et donc c'est déjà une première réflexion à avoir, c'est que non, les prix de l'immobilier, ça fait pas que de monter, ça peut baisser beaucoup. Et donc si on regarde dans le temps, donc on avait parlé déjà des courbes de Frigide, donc si on remonte assez loin dans le temps, c'est-à-dire dans le milieu des années du 19e siècle, on voit que les prix sont quand même très élevés par rapport aux revenus, qu'il y a qu'une très faible part de la population qui peut posséder son logement. Donc ça a été le cas jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Donc c'est ce qu'on voit très bien sur le premier graphique qui est sur le document de Jacques Frigide. Donc à savoir que pour ceux qui veulent les consulter, il faut aller sur le site du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Donc,
enfin, plus simplement, David, il suffit qu'ils aillent sur ton site et il y a les liens qui permettent d'y aller.
Les liens sur les pages, parce que moi je reprends qu'une partie des articles, on va dire ceux qui me paraissent intéressants à un moment donné, par rapport à ce que j'ai déjà montré ou par rapport à d'autres choses, et sachant qu'il y a énormément d'études et de documents qui sont publiés, avec aussi d'autres choses sur le site du Conseil Général, notamment aussi l'évolution de l'assiette des droits de mutation qui permet un peu de suivre les tendances de manière beaucoup plus précise dans différents endroits. Et donc on peut regarder sur la première courbe qui est donnée dans le document principal, on voit que globalement on était à que l'indice des prix divisé par le revenu disponible des ménages, il était au-dessus de 2 quasiment tout le temps entre 1850 et le début de la Première Guerre mondiale. Donc il y a eu bien sûr un effondrement des prix pendant la guerre. Les prix qui ont continué à augmenter jusqu'au début des années 30.
Ouais, donc là, à chaque fois, là, tu parles en relatif, hein, parce que quand voilà. Tu disais tout à l'heure la plus-value que vend, entre guillemets, le promoteur immobilier, c'est de dire, bon, mais vous l'avez acheté 100 000, vous le revendrez 110 ou 120, voire plus. Bon, et ça, c'est en quantitatif, c'est en nombre d'euros. Et là, toi, ta comparaison, quand tu dis que les prix peuvent monter ou descendre, elle est plus importante, elle est plus intéressante, à notre avis, bien sûr, elle est meilleure. C'est l'idée que reprend Frigide aussi. Elle est plus conforme à ce qu'il faudrait regarder sur toute chose quasiment, c'est de regarder le prix non pas en quantitatif, en nombre d'euros, ce qui ne veut rien dire, puisque l'euro, il y en a plus ou moins selon les endroits, et puis il y en a plus ou moins selon les époques aussi. Hein. Là, actuellement, par exemple, depuis 2010, on avait créé deux fois plus d'euros, et depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, on n'en crée presque plus. Donc il y a des moments où ils en créent beaucoup, des moments où ils n'en créent pas, et puis on ne sait pas où ça va, bon, peu importe, ça c'est un autre problème. Mais là, on calcule le prix, quand je dis en relatif, c'est-à-dire que ce que tu disais, c'est que le prix de l'immobilier par rapport au revenu disponible. C'est-à-dire le revenu moyen, hein, c'est ça. Hein.
Donc, si voilà, c'est un revenu moyen qui est calculé sur l'ensemble de la France. Donc c'est à savoir, notamment sur les courbes de Frigide, c'est que c'est le revenu sur l'ensemble de la France. Donc ça biaise un peu les comparaisons avec les prix à Paris, puisque les prix... Les revenus parisiens sont pas forcément les mêmes que les revenus dans l'ensemble de la France. Mais globalement, voilà, ça permet de. On aurait pu comparer aussi les prix par rapport à l'inflation ou par rapport à toute autre référence. Et donc Frigide a pris le parti de se baser par rapport aux revenus des ménages parce que c'est ce qui leur permet de pouvoir acheter telle part d'immobilier.
C'est pour ça que c'est pertinent, parce qu'évidemment, l'inflation, ça ne veut rien dire, puisque c'est calculé et donné par des organismes qui mettent ce qu'ils veulent dedans, alors que le revenu, bon, ben, c'est la quantité de monnaie que chacun peut disposer, dont il peut disposer, et donc qu'il choisit d'investir dans l'immobilier ou ailleurs, d'ailleurs, ça le regarde. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, tu nous disais...
Voilà. Ça permet de gommer beaucoup de biais, justement,
tous les biais.
À la monnaie
ouais,
ou,
bien sûr, tous
ou
les biais.
Autre chose. Ouais. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ça évolue aussi beaucoup dans le temps, par rapport à ce référentiel-là qui est le revenu moyen pour un ménage. Et ce qui en est ressorti, donc après, bon, il y a la période des guerres mondiales qui forcément fausse un peu le marché, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction, il y a eu beaucoup de reconstruction. Et ce que Jacques Frigide a notamment observé, c'est que depuis entre 1967 et jusqu'au tout début des années 2000, Le niveau des prix par rapport aux revenus restait toujours dans une tendance, ce qu'il appelait un tunnel, c'est-à-dire que l'indice était toujours compris entre 0,9 et 1,1.
Oui, avec des cycles à l'intérieur, hein.
Avec des cycles à l'intérieur, bien entendu, ça évolue, ça monte un peu, ça baisse un peu, mais globalement, il en a déterminé une tendance longue qui fait qu'entre 1965 et sur 40 ans, on va dire, sur 35 ans exactement, entre 1965 et les années 2000, on se retrouve globalement dans des prix qui évoluent plus beaucoup par rapport aux revenus. On va dire que si les revenus augmentent, ça plus vite que les prix pendant un moment donné, c'est vite corrigé quelques années après. Ça n'empêche pas des quelques formations de bulle immobilière comme il y a pu avoir en 91 où là on a atteint le pic le plus haut si on regarde depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais quand on se retourne en 2013 sur ces mêmes courbes, on se rend compte que le pic de 91 était ridicule par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Notamment pour Paris où ça a été c'est deux fois plus important.
Oui, parce qu'on parle donc en 91, on parle d'un pic à 1,1 à peu près, 1,1 par rapport au revenu, qui est de
Oui, pour
1.
l'ensemble de la France, oui. Alors
Voilà.
que
Alors que.
on a atteint plus de 1,80 sur l'ensemble de la France à partir de 2007. Et on a fluctué depuis entre 1,6 et 1,8. Aujourd'hui, par exemple, sur les derniers chiffres, le tableau actuel montre pour le deuxième trimestre 2013 un indice à 1,76. Donc on voit qu'on est quand même loin de la tendance sur le long terme déterminée entre 0,9 et 1,1. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux de Frigide, ça permet d'une analyse temporelle sur le passé,
Oui.
et qu'à aucun moment ça donne les indications sur l'évolution future. Donc après, il y en a beaucoup qui peuvent critiquer ces travaux en disant que ça a changé et que les prix, pourquoi ils reviendraient pas comme au début du 20e siècle ou à la fin du 19e, c'est-à-dire que les prix restent très élevés par rapport aux revenus et que du coup il soit difficilement accessible pour une large majorité de la population et que ça soit détenu que par une minorité. Donc ça, c'est la seule chose qu'a fait Jacques Frigide, c'est d'étudier différents scénarios dans l'évolution future. Donc il avait classifié, je sais plus, 7 ou 8 scénarios différents, avec des prix qui montent éternellement, des prix relatifs par rapport aux revenus qui montent éternellement, que ça se stabilise à un niveau élevé, que ça se stabilise à un niveau aujourd'hui, etc., jusqu'à une baisse forte pour revenir dans le tunnel de Frigide. Et du coup, donc voilà, après aujourd'hui, nous, moi ce que je peux regarder quand je vois ce genre de courbe, c'est que ça m'alerte, ça me dit, oula, attention, par rapport à ce qui s'est passé sur les 50 dernières années, on est beaucoup plus haut que les tendances classiques. Donc est-ce qu'il y a des paramètres qui peuvent expliquer ça et qui font que ça pourrait être durable? Ou est-ce que ça va forcément corriger un moment ou un autre dans le futur? Et donc là, j'ai une alerte rouge qui s'affiche et en me disant si j'achète aujourd'hui, qu'est-ce qui me garantit que dans 5 ans ou dans 10 ans, quand je vais vouloir revendre, les prix soient pas beaucoup plus bas que au moment où je les ai achetés, et donc je me retrouve dans une situation délicate au moment de la revente. Et malheureusement pour ceux qui sont dans cette situation, c'est ce qu'on constate depuis l'éclatement de la crise financière en 2008. Il y a certaines zones, donc notamment les zones rurales, on va dire que dans les grandes agglomérations, pour l'instant, ça résiste encore bien. Mais il y a beaucoup de secteurs beaucoup moins dynamiques qui ont déjà vu les prix baisser de 20 à 30% sur les 5 ou 6 dernières années.
Oui. Donc,
Donc,
alors on note quand même sur cette courbe, enfin moi ce que je note, c'est ça ressemble quand même, cette courbe de Frigide actualisée en 2013, le moment que l'on vit ressemble à ce qu'on appelle un double top. C'est un double top en analyse, je dirais, de prix, en général, c'est le signal c'est pas bon quoi, enfin c'est pas bon. C'est pas un signe de poursuite de la tendance, c'est plutôt un signe de retournement.
c'est plutôt un signe de retournement, oui, c'est ce qu'a observé. On voit que pour l'instant, le retournement, il reste quand même malgré tout très très mesuré. Savoir que voilà, je vais prendre pour la province, on va mettre Paris à part pour le moment. pour la province, on était monté à presque 1, entre 1,75 et 1,80 en l'indice par rapport au. Bon, l'indice, il est pris au niveau 1 en 1965. On est descendu à peu près en dessous de 1,6 en 2009 suite à l'explosion de la crise financière.
Ouais.
Donc là, il y a eu un mouvement de panique, plus personne ne voulait acheter. Donc il y en a qui se sont débarrassés rapidement de leur immobilier, ça a baissé en quelques mois très rapidement. Suite aux interventions, notamment des banques centrales qui ont lâché du lest sur les taux d'intérêt et en France, en particulier au soutien de l'État, qui a injecté plusieurs milliards d'euros pour soutenir le marché, c'est remonté légèrement, ce qui a permis de créer le deuxième top.
Mais alors, de quel droit, là, à ton avis, comment tu analyses ça, toi? Comment, quand tu dis effectivement que l'État a effectivement, et c'est vrai, injecté beaucoup d'argent, alors pour sauver les banques, ça on le sait, mais aussi pour effectivement éviter que l'immobilier baisse. Est-ce que là, il n'y a pas encore une fois un privilège donné à une catégorie des citoyens par rapport aux autres?
Bah oui, forcément, ça, à partir du moment où on injecte de l'argent dans un secteur où, qui est détenu par une partie de la population, on favorise cette partie de la population.
Ouais,
donc bah c'était une campagne, voilà, c'est l'UE notamment suite à la campagne présidentielle de 2007, donc il y avait eu des sous-grandes campagnes qui étaient quand même bien basées sur le soutien à l'immobilier,
ouais.
Notamment avec les intérêts d'emprunt qui allaient être bénéficier d'un crédit d'impôt pendant 5 ans, etc. Plus toutes les lois de défiscalisation, notamment la loi Cellier qui a succédé à la loi Robien, etc.
Donc tout ça avantage les propriétaires qui ne voient pas les prix de leur logement chuter, en fait.
Voilà, l'idée, je pense, à la base, c'était de dire bah, la crise est temporaire, on va soutenir pour pas que le marché s'effondre comme ça s'est fait partout ailleurs.
Mais si le problème de cette approche, enfin, je sais pas, c'est ton avis que je demande, hein, mais j'essaie aussi d'éclairer selon un autre point de vue. Mais le marché qui s'effondre pour les uns, c'est une aubaine pour les autres.
Ah donc, bah, moi, en tant que nos locataires potentiellement acheteurs un jour de biens immobiliers, c'est sûr que pour moi, ça peut être un cadeau.
Alors pour toi et pour
tous. Et pour tous ceux qui sont, pour les plus de 40% de la population qui sont pas propriétaires de leur logement.
Mais c'est-à-dire essentiellement les jeunes, notamment, qui finissent leurs études.
Tous les jeunes qui finissent leurs études ou qui les ont finis il y a moins de 5 ans. Aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup qui peuvent acheter un logement.
Alors,
ou alors qui vont l'acheter très loin des zones dynamiques pour trouver des prix moins chers.
Voilà,
ou qui
alors
vont acheter des biens de petite taille.
Alors la question qui se pose, c'est de quel droit un gouvernement, du coup, avantage les propriétaires et les plus vieux au détriment des non-propriétaires et des plus jeunes. C'est quoi l'idée constitutionnelle qui, respectant les droits de l'homme, qui permet de faire ça?
Bah, l'idée, c'est surtout un soutien politique. On va dire que la majorité de la population est quand même bien vieillissante en France. Donc y a plus de personnes qui vont voter, qui ont un certain âge et qui possèdent la plupart de l'immobilier en France. Donc quand on choisit un camp électoral aussi, en fonction de ce que on fait des choix en fonction de ce que ça peut apporter pour la personne qui va se présenter. Donc en soutenant l'immobilier qui est détenu... J'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que les plus de 60 ans en France détiennent plus de 60 ou 70% du parc immobilier. Bah voilà, on choisit une masse d'électeurs potentiels à favoriser.
Mais donc ça veut dire quoi? Il va se passer quoi en France, à ton avis, si pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans, on favorise ainsi les plus vieux et les propriétaires, qui en plus, donc étant les plus vieux, bah, ils vont finir par mourir assez vite, puisque en général, quand on est plus vieux, c'est qu'il reste moins de temps à vivre. Et que les jeunes n'ont pas justement pu développer leurs activités économiques parce qu'on leur a empêché finalement de prendre leur place dans le champ économique. On leur a bloqué par des prix artificiellement maintenus hauts. Donc on a créé des privilèges finalement. Il va se passer quoi quand dans 20 ou 30 ans, finalement, ces vieux et ces propriétaires étant partis, il ne restera que ces jeunes-là? Comment l'économie va être en fait? Si...
Sans regarder ce que vont faire les politiques pour soutenir la demande ou pas, comme ça a été le cas ces dernières années, si on regarde juste le côté démographique, Et ben, on se rend compte que toute la génération des baby-boomers passe progressivement à la retraite actuellement. Donc il y avait notamment un graphe de Jacques Frigitte, bon, il date de 2006, donc les chiffres ont peut-être été réactualisés depuis, mais il donnait un chiffre de 56 ans, c'est l'âge de la personne de référence du ménage à partir de laquelle il est plus vendeur net de mètres carrés que acheteur. Donc ça veut dire que toutes les personnes, on va dire, quand elles arrivent proches de la retraite, qui ont accumulé, qui ont acheté de l'immobilier durant leur vie, elles ont plus tendance à en revendre qu'à en acheter de nouveau. Donc notamment pour financer, pour compléter leur retraite, pour financer leur dépendance, etc. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on est passé dans la période de flambée des prix, où il y avait une grosse masse de la population qui était dans on va dire dans les bonnes tranches d'âge, c'est-à-dire dans les tranches entre 40 et 60 ans, c'est-à-dire où ils ont des capacités d'achat importantes, où ils sont nombreux, et donc ils peuvent peser fortement sur la demande. Donc là, on a une forte demande, mais donc forcément peu d'offres, parce qu'il y avait beaucoup moins de personnes sortantes sur le marché. Et donc là, progressivement, depuis quelques années, on a basculé dans un autre sens, c'est-à-dire que tous les ans, il y a de plus en plus de vendeurs et il y a de moins en moins d'acheteurs. Donc là, l'équilibre entre l'offre et la demande, il est complètement en train de s'inverser. Et dans 20 ou 30 ans, il sera complètement différent. Il y aura beaucoup plus d'offres que de demandes de biens immobiliers. Et un peu partout en France, même dans les grandes villes. Donc forcément, le paysage sera complètement différent dans 20 ans de ce qu'il est aujourd'hui. Et peu importe, on va dire, les politiques pour soutenir les prix actuellement. Si on était un État non endetté avec de larges possibilités de soutenir ce type d'économie, ça pourrait être à craindre pour les jeunes générations de se dire que le gouvernement peut continuer à injecter des milliards et des milliards pour soutenir les prix et pour... Mais je pense pas que dans la situation actuelle, ils aient beaucoup de choix autres que d'arrêter de subventionner à tout prix le secteur du logement.
Donc toi, tu la trouves légitime ou illégitime, cette distribution arbitraire là
Ah moi, je la trouve complètement illégitime.
Ouais.
Pourquoi les favoriser Donc voilà, je vais prendre différents exemples. C'est que quand vous soutenez la demande dans un secteur où il n'y a pas assez de logements, prends l'exemple de Paris, quand vous donnez de l'argent en plus aux acquéreurs par rapport à leur budget, je sais pas, on va dire, allez, un prêt à taux zéro de 15 000 euros, quand vous donnez à quelqu'un qui a déjà un budget de 200 000 euros, 15 000 euros en plus, et qu'en face, ils sont 10 à vouloir acheter le même appartement, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le vendeur, il va prendre le plus offrant, donc c'est-à-dire celui qui va proposer 215 au lieu de 200, donc en gros, vous avez rien résolu, puisque... Là, quand vous donnez 15 000 euros à l'acheteur, ça profite au vendeur, ça profite pas à l'acquéreur. Ouais. De la même manière, quand on fait de la défiscalisation immobilière et que l'État promet 15, 20, 30% du prix d'achat déductible de ses impôts, faut pas croire que les promoteurs, les vendeurs de terrain, ils se gênent pour augmenter leur prix en conséquence par rapport au pouvoir d'achat supplémentaire qui est en face et que c'est pas eux qui captent la plus grande partie de cet argent qui est déversé. Donc quand on entend on va soutenir la demande en donnant de l'argent, que ce soit par des prêts au zéro, des crédits d'impôt ou autre, là dans toutes les zones où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, c'est en gros on va soutenir les prix pour les vendeurs et on va leur faire des cadeaux. C'est pas ça résout rien au problème de logement. La seule chose qui à la rigueur peut être considéré un peu plus normal, c'est de soutenir la construction. C'est-à-dire que plus il y aura d'offres et plus de personnes auront le choix de se loger à des prix corrects. Mais voilà, aujourd'hui, on va dire que le gouvernement actuel a changé un peu cette tendance. C'est-à-dire que pour le moment, je sais pas si ça va durer, mais pour le moment, il y a beaucoup d'aides qui ont été réduites ou réévaluées et qui contribuent moins à la flambée des prix. Donc, ce qui joue aussi au phénomène de retournement du marché.
D'accord. Et t'en penses quoi, toi, par rapport à ces aides et ces dons, ces subventions, ces choix, soi-disant, entre guillemets, politiques, qui avantagent les uns, bon, que tu as dit, c'était illégitime, mais en termes de possibilités, je ne sais pas si tu te rappelles, lors de l'élection de Sarkozy en 2007, il y a Fillon qui avait dit que l'État était en faillite. Et t'en penses quoi si on peut toujours, en fait, finalement, malgré un État qui est soi-disant en faillite, donner de l'argent comme ça, subventionner les uns ou les autres, en distribuant comme ça des bifetons, est-ce que ça, finalement, ce processus illégitime, non constitutionnel, est-ce que tu penses qu'il est avant tout lié au fait que la monnaie permet cela? C'est-à-dire ce système monétaire permet à l'État ou aux banques d'ajouter de la monnaie quand bon il leur semble et où il leur semble.
Ah bah là, à partir du moment où on leur autorise à creuser un déficit qui est déjà plus grand que ce qui devrait l'être, bah voilà, pourquoi ils s'en priveraient? Je veux dire, on avait déjà une dette qui nous donnait comme étant en faillite par François Fillon, ça n'a pas empêché de l'augmenter fortement pendant le quinquennat de Sarkozy.
Ouais, mais alors le problème après, hein, c'est le français qui écoute ça, il devrait se dire, mais en fait, je sais pas, mais il dit, mais d'accord, mais il vient d'où l'argent?
Ah ben l'argent, il
Il y vient de... Parce
est
que
de prendre.
toi, si t'es endetté, si t'as un trou dans ton compte en banque, tu peux pas retirer autant d'argent que tu peux plus en retirer, c'est fini. On te
Ah
bloque.
bah il vient des banquiers qui continuent à prêter, ou des banquiers ou
Mais les
d'autres
banquiers.
organismes qui
Les
continuent
banquiers.
à prêter aux
Les,
États
ouais.
alors qu'ils sont déjà surendettés, quoi.
Mais les banquiers eux-mêmes, ils le sortent d'où? Parce qu'ils sont eux-mêmes en faillite, ils sont eux-mêmes en excès de en très large excès d'émissions de crédit. Ils sont déjà à plus d'un ratio de plus de 10 ou 20. C'est-à-dire ils ont émis entre 10 et 20 fois plus de crédit qu'ils n'ont de fonds propres. Donc ils viennent d'où cet argent? Parce que
Ah, bonne question.
hein, parce que si l'État est endetté et ne peut plus émettre, et si les banques elles-mêmes sont au maximum de ce qu'elles ont pu prêter, qui déjà est de l'argent qu'elles ne possèdent pas, entre le crédit bancaire et les bons du trésor de l'État. Et finalement, quand l'un émet un bon du trésor, l'autre se voit permis d'émettre du nouveau crédit. Donc à la fin, est-ce que t'as pas l'impression que nous, on se fait avoir dans ce mécanisme-là?
Ah bah, ça biaise forcément toute l'économie réelle qui en découle derrière. On le voit depuis plusieurs années.
Alors on va y revenir, parce que c'est exprès que je te posais cette question, tu le savais très bien, parce que on va y revenir, parce qu'on va toujours parler d'immobilier dans la troisième partie, parce qu'on va faire une deuxième pause. Et on va y revenir pour essayer de décortiquer ce mécanisme qui a peut-être conduit à la bulle immobilière qu'on constate aujourd'hui, et à toutes les bulles en général. Mais l'immobilier, je pense, c'est un très très bon exemple, parce que c'est la valeur finalement aujourd'hui qu'on peut considérer comme une sorte de valeur comprise à peu près par tout le monde. Alors sauf ceux qui, évidemment, il y en a quand même quelques-uns, comme des gens qui vivent ben, tout simplement en mobilité. Hein. Il y a plein des gens comme... qui vivent en caravane, par exemple, bon, mais eux, ils se moquent un peu de l'immobilier, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vivent pas comme ça et qui connaissent très bien cette valeur particulière aujourd'hui en 2013. Donc, on va analyser ce point et évidemment, tu vas nous donner ton avis sur ce sujet-là. Donc, on fait une deuxième pause et on se retrouve juste après.
Hold it, a scam, get piles of money. That is true.
voilà, de retour dans cette troisième partie, toujours avec David. Salut encore, David.
Oui, re-coucou.
Re-coucou, donc pour Immobilier d'Angers, le site qui parle de l'immobilier. Alors, on avait parlé dans cette deuxième partie de l'aspect temporel, et puis on avait parlé de cette aussi, c'est toi qui es venu là-dessus sur... le fait que ce double top finalement que l'on observe depuis un premier top qui a eu lieu en 2008, hein, qui s'est vu déjà subir une forte baisse lors de cette crise. Maintenant, on a vécu un deuxième top et il semblerait qu'on est en train de vivre une baisse nouvelle qui serait importante, puisque les notaires commencent à déclarer que les prix baissent. Avec un décalage, comme tu nous l'as dit dans la première partie d'ailleurs. Et alors, on parlait de ces soutiens que donne l'État à l'immobilier pour éviter qu'il s'effondre, donc avantageant les propriétaires et les plus âgés au détriment des non-propriétaires et des plus jeunes. Ça, on l'avait souligné. On n'avait pas trouvé de raison, hein. On est d'accord avec ça.
Bah, autre que un calcul politique.
En tout cas, un calcul politique, mais devant le contrat social, on n'en a pas trouvé, en tout cas.
Non, sous prétexte d'aider la population qui veut acheter des biens immobiliers, on a vu le résultat quelques années après, c'est que, bah, la situation, elle n'a pas été améliorée. Donc,
on le fait au détriment des nouveaux entrants, il faut le dire comme ça. Il ne faut pas toujours montrer le côté de ceux que ça avantage, c'est un peu le biais des médias aussi. C'est-à-dire, mais c'est bon pour le marché de l'immobilier, mais lequel? Celui des propriétaires ou celui de ceux qui veulent y accéder?
Parce que bah, ceux qui en vivent et ceux qui possèdent l'immobilier.
Et voilà, forcément. Parce que ceux qui veulent en acheter, eux, ils ont intérêt à ce que les prix baissent, pas à ce qu'ils montent. Alors donc...
Je reviendrai même sur une autre chose, c'est même pire que ça, c'est même les propriétaires qui veulent acheter un bien d'une valeur moindre par, je sais pas, je vais prendre l'exemple d'une famille dont les parents sont proches de la retraite et les enfants sont partis de la maison. Est-ce qu'ils ont encore intérêt à garder une grande maison, je sais pas moi, de 130, 150 mètres carrés? Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt intérêt pour passer leur retraite de prendre un logement plus petit et plus adapté à leur situation? Ces personnes-là ont aussi intérêt à ce que l'immobilier baisse. Puisque à partir du moment où vous achetez quelque chose de moins cher que ce que vous vendez, vous êtes gagnant quand les prix baissent. Et même, on va dire, à prix équivalent, si vous achetez un bien d'une valeur, vous êtes gagnant à ce que ça baisse, parce que vos frais de notaire seront plus bas.
Ouais, tout à fait.
Donc ça, c'est un article qui avait fait pas mal de bruit quand je l'ai publié. C'est que j'ai montré par des calculs simples qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont aussi intérêt à ce que les prix baissent, et qu'il faut arrêter de croire que parce que les prix baissent, ça impacte et ça va pénaliser tous les propriétaires. C'est faux, ça va. Les seuls qui vont être vraiment pénalisés si les prix baissent réellement, ce sont ceux qui ont acheté quand c'était beaucoup plus cher, c'est-à-dire les acheteurs de ces dernières années.
Oui.
Tous ceux qui ont acheté avant 2003, on va dire, là où ça a commencé à vraiment augmenter à plus de 10% par an, aujourd'hui, ils sont pas perdants, même en vendant 20% moins cher, 30% moins cher, il y en a qui gagnent encore de l'argent. Donc ce côté que les gens qui sont, tout dépend du référentiel. Si vous regardez que vous avez besoin de vous loger, et que vous, quoi qu'il arrive, si vous vendez votre bien, vous devez en racheter un autre parce que vous n'avez pas envie d'être locataire, vous avez intérêt à ce que ça baisse. Maintenant, si vous voulez vendre pour partir en location ou en maison de retraite ou pour plus tard, pour transmettre à vos héritiers la valeur de votre bien, vous avez intérêt à ce que les prix continuent à monter.
Ouais, comme tu viens de le dire très justement, ça c'est, je vais reprendre ce terme, ça me paraît extrêmement juste, tout dépend du référentiel comme tu le dis. Donc du coup, quand l'État fait des actions comme ça pour privilégier les uns au détriment des autres, et en fait, il ne prend qu'un référentiel, celui qui l'arrange, ou celui qui croit qu'il arrange des gens. En fait, il arrange que ceux qui ont un référentiel particulier. Et c'est pas tout le monde, bien sûr, c'est pas tous les citoyens. Alors, je vais te soumettre maintenant deux réflexions, et tu vas me donner ton avis. On va reprendre sans doute des thèmes qu'on a développés dans cette émission. Mais en gros, on a parlé du lien avec la monnaie, on s'est demandé aussi d'où venait cette monnaie qui permettait à l'État comme ça de faire des soutiens, ou aux banques de pouvoir continuer à acheter des bons du trésor de l'État. Ce qui revient au même selon moi, c'est un jeu à deux, c'est un moteur à deux temps. Mais alors, si qu'est-ce que tu penses de ça? Si seuls des citoyens qui ont un revenu peuvent avoir des crédits immobiliers, puisque c'est ça. Aujourd'hui, quand on va demander un crédit à une banque, ils demandent quels sont vos revenus. Alors, ça leur permet d'acheter, puis de louer ces biens. Et puis donc, comme ils louent ces biens, bah, du coup, ils ont plus de revenus. Puisqu'ils ont des revenus initiaux plus des loyers, et d'autant plus de loyers qu'ils ont acheté des biens. Ce qui leur permet du coup bah, de payer leur immobilier. Puis une fois qu'une partie de ce paiement est effectuée, au bout de quelques années, en fait, l'argent continue de rentrer, on voit qu'ils ont toujours des revenus, donc ils peuvent demander toujours plus de crédit à la banque, puisqu'ils ont toujours des revenus. Donc le revenu appelle le crédit permet de s'acheter l'espace souverain, et l'espace souverain permet de tirer plus de revenus. Et plus de revenus permet d'avoir plus de crédit, qui permet d'acheter plus d'espace souverain, qui permet encore d'avoir plus de crédit, etc., etc., etc. Est-ce que c'est pas ça la racine du cycle, finalement?
Ah bah forcément, ça creuse les inégalités, et aujourd'hui, on se rend bien compte que ceux qui ont acheté il y a plusieurs années, il y a plus d'une dizaine d'années, ils bénéficient fortement de cette amplification de la valeur qu'a pris leur bien, et aux dépens de ceux qui possèdent pas d'immobilier. Et, aujourd'hui, vous pouvez lire n'importe quelle interview d'agents immobiliers, de notaires, ils vont vous dire que les primo-accédants ont complètement disparu du marché, ou presque. Avant, ils représentaient 60-70% du marché, aujourd'hui, c'est descendu en dessous de 40%. Et ça s'explique comment? Bah, ça s'explique que ceux qui sont sans immobilier à vendre ne peuvent plus en acheter derrière avec leur seul revenu.
Oui, alors, donc, qu'est-ce que tu penses?
Les inégalités, elles ont été créées ouais. Voilà, au fur et à mesure. Moi, si je vends un appartement oui. cher, bah, je vais pouvoir m'en acheter encore plus cher en continuant d'emprunter. Ou en investissant en locatif et en percevant des loyers, je vais, comme tu le disais, je vais avoir plus de revenus, donc la possibilité d'emprunter plus et donc la possibilité de continuer à investir encore plus dans le locatif. Et donc on en arrive à des situations où la part de personnes qui peuvent acheter se réduit fortement. Oui. Après, il y a des pays dans lesquels le taux de propriétaires est beaucoup plus faible qu'en France et où ça se passe globalement bien. Je prends l'exemple de la Suisse,
oui.
où il y a beaucoup plus de locataires qu'en France. Et voilà, les problèmes de logement sont pas forcément les mêmes qu'on rencontre en France.
Oui, mais il y a plus de locataires, mais ça veut dire que le nombre de propriétaires est plus limité, ça veut dire que quelques mains possèdent beaucoup.
Voilà, c'est beaucoup d'institutions ou de grands portefeuilles qui possèdent tout l'immobilier et qui est loué.
Donc,
après, il faut savoir que la rentabilité va dépendre des loyers qui peuvent être perçus par rapport au prix d'achat. Et les loyers sont forcément plafonnés par les revenus des gens. Donc à partir du moment où il y a forcément un plafond, et je pense pas que ce modèle puisse continuer à les prix peuvent pas continuer à augmenter à l'infini sur ce principe, même si la part d'acheteurs diminue et que seuls quelques possédants détiennent tout l'immobilier, parce que pour que ces gens-là aient intérêt à continuer à investir, il faut que ça apporte un minimum de rentabilité par rapport à d'autres types de placements. Or, on a bien vu ce qui s'est passé en France, c'est que les prix ont flambé beaucoup plus vite que les loyers. Et les rentabilités, elles sont devenues ridicules. Donc aujourd'hui, investir dans le locatif avec quasiment aucune perspective de plus-value à moyen terme ou à court terme, et des rentabilités ridicules, y a beaucoup d'investisseurs qui commencent à se dire qu'il n'y a aucun intérêt à placer de l'argent dans l'immobilier.
D'accord. Et donc, au final, qu'est-ce que tu penses finalement de ce système monétaire qui permet, ou même qui est fondé sur le fait que plus tu as de revenus, plus tu auras du crédit, ce qui fait la monnaie, hein, puisque la monnaie qui circule est essentiellement du crédit bancaire associé à une monnaie de base et des bons du trésor de l'État. Tout ceci, la contrepartie des uns étant l'émission des autres. Est-ce que ce système monétaire même qui permet cela, finalement, qui permet de créer d'autant plus de crédit qu'on a de revenus, finalement, n'est pas autogénérateur de bulles? Par sa structure même, il va mécaniquement, au bout de quelques années, mécaniquement donner de plus en plus d'avantages à ceux à qui on a donné un avantage initial.
Ah bah oui, ça joue fortement.
Donc,
après, dans quelle mesure ce paramètre, on va dire, qui est la création de la monnaie, est-ce que dans quelle mesure il intervient sur les prix et sur les différentiels qu'il peut y avoir après plusieurs on va dire plusieurs années de ce système, quel est son impact, c'est difficile de le mesurer par rapport à d'autres conditions qui vont être les taux de financement, qui vont être les conditions du marché qui évoluent et tout ce qui peut jouer sur les prix de l'immobilier et sur le fait que aujourd'hui c'est devenu inaccessible pour une grande part de la population. Donc notamment je sais que il y a une chose qui te tient très à cœur, c'est le revenu de base.
Alors voilà, on est arrivé, c'était le dernier point effectivement qu'on allait traiter.
Voilà, je sais pas, on en reparlera peut-être.
On y vient,
j'aimerais bien notamment voir ce qui se passera quand si le revenu de base est instauré en Suisse, comme peut présupposer le référendum qui va être appliqué dessus. Voir quel impact ça aura sur justement un marché où l'immobilier est détenu que par une poignée de la population et ça sera très révélateur, on va dire, de ce qui pourrait se passer dans d'autres pays comme la France si ce type de système pouvait être mis en place.
Oui, alors effectivement, alors on peut le voir ça avec, c'est ça qui est intéressant avec l'immobilier parce que ça parle directement forcément à énormément de personnes, puisque tout le monde est plus ou moins logé, hein, soit en locataire, soit en propriétaire, soit d'une autre façon, soit en copropriété, soit etc. etc. Mais ça parle évidemment. Alors, puisqu'on a parlé de que ce fameux crédit bancaire est arbitrairement distribué, et notamment, alors, il est distribué à ceux qui ont d'abord des revenus, puis il permet donc à ces gens de pouvoir s'acheter des biens qui vont louer, donc d'avoir plus de revenus, donc plus de crédits, donc encore plus de revenus, donc etc. etc., créant des bulles. Maintenant, un revenu de base inconditionnel est attribué à chaque citoyen, eh bien là, il n'y aurait plus de personnes a priori désavantagées devant le crédit, parce que tout le monde pourrait avoir, disons, un revenu de base justifiant la possibilité du crédit. Donc du coup, l'allocation du crédit...
C'est ce sur quoi base le banquier, c'est-à-dire aujourd'hui, on va vous demander d'avoir un CDI dans une entreprise qui n'est pas au bord du précipice et de vous engager sur pas plus de X% de vos revenus de ce CDI. Ça veut dire que ça exclut de surcroît tous ceux qui sont en CDD, tous ceux qui sont entrepreneurs, tous ceux qui sont en intérim. Il y a beaucoup de personnes qui sont exclues du marché du crédit immobilier parce que le banquier attend un certain nombre de garanties que l'instauration d'un revenu de base pourrait justement corriger, puisqu'il aurait forcément une garantie d'un minimum de revenus et donc une part de ce revenu minimum qui pourrait être utilisée au remboursement d'un crédit immobilier.
Voilà, exactement. Donc ça lisserait, alors évidemment, ça suffirait pas, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas avoir des revenus complémentaires, etc. Mais comme tu viens de le dire, ça lisserait beaucoup et surtout, il n'y aurait plus de personnes qui puissent être considérées comme non garanties. En fait, l'existence même de la personne associée au revenu de base inconditionnel, donc justement qui ne dépend pas de l'activité de la personne, quoi qu'elle produise, et toute personne produit. Dans ce cas-là, pourrait aussi rassurer les banquiers quant à la possibilité, finalement, de ne pas mettre l'économie en péril, parce que le banquier doit aussi avoir ça dans l'esprit, bien sûr, c'est que s'il émet trop de crédits de façon irraisonnée, eh bien, on aboutit à des grandes crises financières et économiques, comme on le voit depuis 2008. Donc, évidemment, si c'était mieux réparti dans l'économie, cette monnaie, notamment grâce à un revenu de base inconditionnel, eh bien, cette complexité, je dirais, nouvelle, puisque ça serait une complexité, tout le monde étant potentiellement, candidat possible à l'achat immobilier, par exemple, donc, puisqu'on parle d'immobilier, donc il n'y aurait plus de distorsion et de séparation arbitraire ici entre deux classes, finalement, les plus âgés possédant et les plus jeunes étant... finalement dans l'attente, parce que c'est ça, en fait, moi j'ai l'impression, je ne sais pas si tu vas me donner ton avis, mais que cette crise économique, alors peut-être bon, j'ai un peu plus de recul que toi en termes d'années de vécu, Mais cette crise économique est une attente entre les vieux qui attendent on ne sait quoi, parce qu'on ne voit pas trop comment les jeunes accepteraient de travailler sans retirer du fruit de leur travail. Parce que c'est ça qui se passe, j'ai l'impression que d'un côté, il y a croyance que la croissance pourrait repartir en disant « Travaillez, on va tout vous prendre, mais ça fera de la croissance. » Je crois que ça, j'ai l'impression que ça ne peut pas trop fonctionner, ça. Et il y a une attente des deux côtés, et puis de l'autre côté, des jeunes qui attendent de pouvoir simplement développer leurs entreprises, développer leurs activités économiques, prendre un travail, pouvoir acheter leur terrain, leur appartement, éventuellement s'installer, etc. Et on attend, en fait, on est dans l'attente. Et la question, c'est combien de temps il va falloir attendre? Est-ce qu'il va falloir encore attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça va être de quelle durée?
Moi, j'ai aucune perspective de durée, c'est difficile de prévoir combien de temps ça peut tenir. On va dire que les possédants, on va dire que, mis à part l'âge avançant, ils ont tout le temps devant eux. C'est-à-dire que, pour l'instant, ils vivent très bien. Enfin, je parle en majorité, hein, bien sûr, il y a toujours des cas particuliers dans lesquels des personnes plus âgées peuvent être aussi en difficulté financière. Mais on va dire que la plupart des possédants sont d'un certain âge et que, pour l'instant, ils n'ont pas d'intérêt particulier à se précipiter, à transmettre aux générations futures, soit aux suivantes, je veux dire. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec une situation où ceux qui possèdent cherchent à posséder le plus possible pour aider leurs héritiers, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, à s'en sortir parce qu'ils s'en rendent compte que les jeunes aujourd'hui ils n'y arrivent pas. Donc il y a ceux qui ont la chance d'avoir des familles qui les soutiennent et qui peuvent leur faire profiter d'une part de leur propriété, que ce soit immobilière ou autre. Et puis y a ceux qui peuvent pas. Donc combien de temps ce système peut durer, je sais pas. On va dire qu'arrive à un moment donné où les personnes qui arrivent massivement à la retraite aujourd'hui vont être de plus en plus dépendants et les retraites, il va bien falloir les payer aussi par la création du travail des jeunes, donc je sais pas où ça va nous mener d'un point de vue économique, mais ça s'annonce pas très rose pour les jeunes en tout cas, et je vois pas de perspective d'amélioration dans les années qui viennent, quoi.
D'accord, donc tu vas encore attendre pour acheter ton bien immobilier, non?
Moi je me suis fixé des critères qu'on va dire qui sont indépendants un peu de l'évolution du marché, c'est-à-dire que quand je regarde des tableaux d'amortissement, que je fais des simulations, je vois qu'à partir d'une certaine durée d'emprunt, je fais des cadeaux au banquier et je vais travailler pour payer le banquier. C'est-à-dire qu'au-delà de 15 ou 20 ans sur un prêt, vous augmentez de très peu votre montant que vous pouvez emprunter, mais par contre le montant des intérêts il explose, quoi, c'est exponentiel. Chaque mois supplémentaire de remboursement, ça part la totalité quasiment pour la banque. Donc moi aujourd'hui je me suis fixé une limite de 15 ans d'emprunt, par exemple, et j'achèterai ma résidence principale que le jour où, avec un emprunt de 15 ans, on va dire pas plus de 30 ou 33% de mes revenus, me permettra d'acheter un logement dans lequel je pourrais vivre avec ma famille pendant 10, 15, 20 ans. Et dans le cas contraire, je resterai locataire parce que pour l'instant, j'ai économiquement et financièrement, soit j'ai pas le choix, soit je dois revoir mes critères et acheter un bien qui me conviendra pas. Donc ça n'a pas d'intérêt.
D'accord. Donc je crois que c'est très sage comme conclusion. Alors ceci dit, peut-être une dernière remarque. En attendant, quand même, tu contribues au financement des propriétaires puisque tu payes ton loyer. Donc tu ne contribues pas à la baisse du prix des logements. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, je sais. Sur le logement que je loue actuellement, je sais que si je l'avais payé, moi, personnellement, ça me coûterait beaucoup plus cher au quotidien sur les revenus du mois du foyer. Je devrais payer beaucoup plus cher pour être dans ce même bien, un propriétaire, et au lieu de payer un loyer à un propriétaire, je le paierais à ma banque. Pendant 20, 25, 30
ans. Pas tout à fait, parce que tu te rends progressivement propriétaire de ton logement, donc du capital qui va avec. T'oublies la capitalisation qui va dans le remboursement. C'est-à-dire que c'est pas un loyer que tu payes à la banque uniquement. Tu payes une partie en intérêt, c'est vrai. Et ça, c'est. Bon, après, il faut voir ce que ça représente, etc. Mais quoi qu'il en soit, tu deviens propriétaire de ton logement. Alors, bien sûr, le prix peut être à la fin moins cher que celui-là.
Pour ça, il faut que je sois sûr d'y rester un minimum d'années.
Voilà, et oui, ça c'est, il me semble que c'est plus le critère à tenir. C'est effectivement.
Voilà, pour une comparaison, voilà. Achat ou location, il faut que le bien que vous achetez, si vous y restez avec les prix actuels par rapport au loyer, si vous y restez pas 8 ou 10 ans au minimum.
Ah oui, il faut rester 10 ans.
Sûr
ouais,
de,
ouais, on est d'accord.
Sûr de perdre de l'argent.
Ouais, 10 ans. Non, mais 10 ans, c'est. Effectivement, il faut rester au moins 10 ans.
Et 10 ans, je parle pour moi qui habite en province. Hein, il y a des études qui ont été publiées récemment, là, il y a quelques mois, ouais. Notamment du cabinet PrimeView qui avait fait des comparaisons par rapport au prix et au loyer dans différentes villes. À Paris, ça dépassait la vingtaine d'années. Je sais plus, c'était 22 ou 23 ans qu'il fallait attendre pour que l'achat soit gagnant.
Oui, enfin, gagnant.
Si vous revendez avant, eh ben, vous perdez de l'argent.
Oui.
Voilà. Donc voilà, quand on est dans une situation comme ça où on est jeune, où économiquement on n'est pas sûr d'avoir du travail et
alors tu perds de l'argent encore
des revenus qui vont augmenter ouais. Dans les années qui viennent.
Ouais. Attention,
on va pas s'engager à rester dans un bien qui ne convient pas
oui.
Dans 15 ans.
Alors quand tu dis on perd de l'argent, le calcul n'est pas si simple que ça, parce que si tu achètes cher, même si tu revends moins cher, bon, t'as fait une moins-value entre guillemets en question d'achat-vente. Bon, c'est une chose. Mais il faut regarder pendant le même temps ce que tu aurais payé comme loyer, que là non plus tu récupères pas. Donc il faut regarder, il faut comparer les deux. C'est-à-dire qu'il faut comparer la moins-value éventuelle que tu ferais et le paiement du loyer que tu aurais fait. Là, dans ce cas-là, ta comparaison est juste. Et dans ce cas-là, si
oui,
c'est...
Moi, je pars du principe que se loger, ça a un coût. Que ce soit en achat ou en location, quoi qu'il arrive, il y aura un coût. Si j'achète mon logement, il va falloir que je paye les frais de notaire, les frais d'agence,
oui.
Une taxe foncière tous les ans, il va falloir que j'entretienne le bien et que je paye... le crédit immobilier, parce que aujourd'hui je peux pas m'acheter cash une maison.
Oui.
Donc je vais payer tout ça.
Oui.
Ça va me coûter un certain montant,
oui.
Qui va dépendre du prix d'achat, etc.
Oui.
Et en parallèle, il y a le loyer que je vais devoir payer pour le même bien.
Oui.
Et puis bah je calcule combien ça me coûte d'être locataire, combien ça me coûte d'être propriétaire, et quand je fais la comparaison. Bah, je me rends compte que si je vais être propriétaire du bien que je loue et que j'estime avoir besoin pour vivre, je me rends compte que bah, il faut que je paye soit des mensualités énormes par rapport au loyer que je paye actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas si je prends l'appartement actuel ou sur un loyer qui doit être à peu près à 750 € pour louer le même bien sans mettre d'apport ou en mettant juste les frais d'acquisition en apport. Il faudrait que je sois à 1200, entre 1200 et 1500 € de mensualité.
Mmh.
Donc ça, aujourd'hui, bah, y a des familles qui ne le peuvent pas, tout simplement. Mmh. Et puis ceux qui le peuvent, eh ben, ils peuvent rester locataires et mettre la différence de côté et se constituer un apport pour le jour où ils achèteront.
Tout à fait. Tout à fait. Non, mais
voilà,
c'est
le calcul qu'il faut faire. Et puis cet
exactement.
Apport, eh ben, cette épargne qui est constituée, elle génère des intérêts. Même si c'est très faible en ce moment, les taux de rémunération de l'épargne, mais ça génère des intérêts qui payent
Des intérêts qui viennent des placements immobiliers faits par ta banque, qui viennent donc de ton propre loyer.
Voilà. Ah bah oui, c'est lié, hein, de toute manière. Mais voilà, quand on fait une simulation achat ou location, il faut vraiment tout regarder dans le détail, tout ce qui est à payer par un propriétaire qui ne l'est pas par un locataire.
Mm-hmm.
Prendre à un instant T, comme on disait tout à l'heure, l'analyse spatiale, c'est-à-dire que je veux vivre dans tel logement, dans telle ville, ça me coûte tant en achat, ça me coûte tant en loyer. À partir de ce moment-là, on peut déjà calculer que combien de temps il faut rester dedans pour en revendant au même prix que le prix d'achat, combien de temps il faut rester pour que déjà qu'on ait rattrapé en nombre de loyers tous les frais que va avoir un propriétaire, ne serait-ce que les frais d'acquisition,
ouais.
Qui montent vite à plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, ça monte très vite. Donc moi, j'en suis arrivé à la conclusion que pour l'instant, s'il faut que je reste 8 ou 10 ans dans le bien que je loue, aujourd'hui, il va bien parce que j'ai pas d'enfants, mais le jour où j'aurai des enfants, je vais vouloir m'agrandir, je vais vouloir un logement plus grand. Donc à ce moment-là, bah, aujourd'hui, pour l'instant, je reste locataire. Et puis quand ma famille sera agrandie, on va dire que ça sera stabilisé, et ben j'analyserai à ce moment-là si j'ai intérêt à acheter ou pas le bien. Après, c'est n'y a pas qu'une question d'argent, on va dire qu'il y a la possibilité. Tant que j'en ai la possibilité d'acheter un logement suffisamment grand pour loger toute ma famille, c'est déjà une bonne chose. Après, voilà, il y a à savoir, étant donné le niveau actuel des prix, je prends statistique, enfin en termes de probabilité, je prends pas beaucoup de risques à me dire que si j'attends un an, deux ans, cinq ans, les prix soient beaucoup plus élevés d'ici là, quoi.
D'accord. Alors, sur ton site, je crois, il y a des petites calculatrices de comme ça pour évaluer, non? Il y a ça, non? Pour faire justement des petites simulations, combien vous coûterait un achat, combien vous coûterait une...
Ben, c'est ce qui est prévu. Je suis en train de développer justement quelques calculatrices à mettre, mais sinon, pour le moment, il y a des articles que j'ai faits qui commentent des outils déjà existants sur d'autres sites.
D'accord.
Par exemple, comparateur achat ou location du site villeimmobilière.org. J'ai fait un tutoriel dessus qui explique comment s'en servir, comment faut saisir les données, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça permet de calculer.
D'accord. Et ça, on le retrouve comment, cet article, sur ton site? On cherche, on fait une recherche
Il y a un moteur de recherche sur la colonne de droite, sur tous les articles. Vous pouvez taper achat ou location ou tutoriel d'une simulation, acheter ou louer, ou des choses comme ça.
Ouais, on tape simulation et on va trouver des articles qui nous expliquent comment pouvoir comparer. Ben, je trouve ta démarche, écoute, vraiment, David, vraiment excellente, hein, du début à la fin. Je crois que tu t'es posé des questions, tu as fait des calculs. Alors, t'as une formation un peu d'informaticien
Oui, j'ai un diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées et en informatique, donc c'est pour ça que...
D'accord.
Je suis plus basé sur des calculs qui me permettent de comparer de modèles, on va dire, de coûts entre la location et l'achat, par exemple.
D'accord, d'accord.
Ou sur un financement immobilier, d'étudier à partir de quel moment c'est plus... Faut arrêter d'augmenter la durée parce que ça génère beaucoup plus d'intérêt que ce que ça va apporter en argent supplémentaire empruntable. Et donc c'est justement sur cette formation que je me suis basé pour on va dire prendre une analyse extérieure qui vient pas du monde de l'immobilier et qui permet de donner un avis différent, on va dire, à chacun sur le marché.
D'accord. Bah écoute, merci.
J'essaie d'être le plus indépendant possible. Voilà. Après, j'ai forcément ma vision du marché immobilier, du monde économique. Et donc, je n'ai pas forcément toutes les vérités. Il y a peut-être des gens qui pensent différemment de mon raisonnement. Mais ce que j'essaie de faire avec Immobilier d'Angers, c'est de donner la possibilité à ceux qui veulent se poser des questions par eux-mêmes de s'interroger et d'avoir un autre point de vue.
Oui, tout à fait. Donc, comme tu disais tout à l'heure, chacun a son référentiel. Hein. Toi, tu as développé celui qui t'est propre sur ce marché particulier, mais important, qui concerne énormément de personnes, bien sûr, sur l'immobilier. Et il est forcément. Il reflète ta vision de ce marché. Moi, je la trouve extrêmement pertinente. Elle s'appuie sur beaucoup de constatations très pointues et très intéressantes. Et moi, c'est un site que je consulte tout le temps, tout simplement. Je l'ai dans mes flux RSS. Donc quand il y a quelque chose qui paraît, je suis au courant. Voilà.
Ben merci, je sais que voilà, on avait échangé au tout début de la création du site, donc je sais que tu suis. Enfin, je savais pas que tu continues à suivre.
Ah si, je suis.
Le site, mais je sais que voilà, tu étais un des premiers lecteurs réguliers sur le site.
Ouais, je t'avais fait quelques remarques d'ailleurs.
Oui, je sais plus. J'ai essayé de tenir compte.
Ouais, je sais plus ce que c'était, mais bon, peu importe. Donc bah, écoute.
De l'ordre du visuel, ouais.
D'accord. Ben, merci David pour ce passage dans Monnaie Libre. Hein.
Merci à toi pour l'invitation.
Ben, écoute, c'est normal.
Pour cet échange qui permet toujours de comparer différents points de vue. Et puis ça m'a permis aussi de creuser un peu plus la comparaison, notamment par rapport aux évolutions monétaires et l'impact que ça pouvait avoir choses sur lesquelles je m'étais pas forcément interrogé.
Ah mais c'est pas l'impact que ça pourrait avoir, c'est l'impact que ça a. C'est que tous les prix dans une monnaie dépendent de comment cette monnaie est répartie. C'est-à-dire qu'effectivement, là où il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de prix dans cette monnaie, tout simplement. C'est-à-dire que les prix dans une monnaie dépendent de sa répartition, de sa topologie, de sa densité, de là où elle est répartie, de comment elle est mise, et de la structure du système monétaire lui-même. Qui va déterminer où on en met ou pas. Et bon, une grande part de cette monnaie, on l'a vu sur la crise des subprimes et on le revoit en France avec cette bulle, une grande part, effectivement, se déverse sur l'immobilier. Donc c'est un des, c'est un des, si ce n'est le marché peut-être le plus crucial, en tout cas actuellement. Ça sera peut-être différent dans 150 ans, mais en attendant, c'est comme ça. Donc, merci encore, David. On n'hésitera pas de toute façon à te recontacter. J'hésiterai pas à te recontacter. Des soubresauts qui pourraient y avoir sur ce marché, ce qui peut arriver hein, dans le mois qui vient, ou dans les 6 mois, ou l'année prochaine. Mais on est peut-être à l'orée de quelque chose de surprenant. Voilà.
Oui, je pense oui, qu'aujourd'hui, les chiffres masquent beaucoup de choses, notamment avec des volumes qui sont beaucoup plus faibles, donc ça biaise la structure sur laquelle sont faites les statistiques. Il y a des... Voilà, aujourd'hui, on arrive à une situation où on a des prix qui baissent, même modestement, voire fortement dans certains secteurs, malgré des taux qui sont historiquement bas, et donc des conditions qui pourraient nous paraître normalement propices à une augmentation des prix, avec des taux qui n'ont jamais été aussi bas. Et on se rend compte que c'est pas du tout le cas, et quand on creuse un peu, ben on se rend compte que voilà, les taux d'intérêt ont vraiment peu d'impact sur la capacité d'achat des ménages, et qu'il y a d'autres problèmes à régler que juste baisser les taux pour que ça puisse débloquer la situation du logement en France.
Voilà. Donc écoute, merci David, là ça va vraiment être terminé. Ça va nous faire une belle émission de presque 2 heures encore. Hein. Je fais des grosses émissions en ce moment. Et on se dit donc à très bientôt.
À bientôt.
Moi je vous laisse donc avec notre générique de fin fétiche, No More Dreams. Et à bientôt sur Monnaie Libre. Au revoir. We'll be right back.